L'accord de paix du Vendredi Saint donne le droit aux Nord-Irlandais de choisir leur identité. Vous pouvez choisir d'être britannique ou irlandais, ou les deux à la fois. Mais dès que vous essayez de mettre une frontière sur l'île d'Irlande, ou en mer d'Irlande, vous créez un point de déséquilibre. Et c'est pour cela qu'il y a ces nouvelles tensions.
Depuis le 31 janvier, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Et ce Brexit rouvre, en Irlande du Nord, des plaies à peine refermées. Car, dans le processus de divorce, la question de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, qui, elle, reste dans l'Union, est cruciale. Elle a d'ailleurs été l'un des principaux points d'achoppement des longs mois de négociations entre Londres et Bruxelles.
Ladies and gentlemen, let me say very frankly that for me,
Michel Barnier,
what really matters is peace.
Depuis la guerre d'indépendance de 1919 à 1921 qui a conduit à la création de la République d'Irlande au Sud, l'Irlande du Nord, l'Ulster, connaît des affrontements dont le point d'orgue a été, il y a juste 48 ans, la répression par l'armée britannique d'une manifestation de républicains pacifistes à Derry, que les Britanniques appellent toujours Londonderry. C'était le dimanche 31 janvier 1972.
À 14h05, un premier coup de feu. L'armée réplique. Les témoins irlandais accusent. Ce fut un massacre.
Bilan de ce Bloody Sunday, 14 morts, essentiellement de très jeunes hommes, certains abattus dans le dos. Un souvenir toujours présent, même si depuis l'accord dit du Vendredi Saint en 1998, les communautés catholiques et protestantes réapprennent à vivre ensemble.
Regardez là, vous avez un centre de fitness pour les catholiques. Si vous passez la porte et prenez la route à droite, environ 200 mètres, il y a un autre centre de fitness pour les protestants.
Or, le débat sur le Brexit a remis de l'huile sur le feu. Pour certains républicains, essentiellement catholiques, la réunification de l'île reste un Graal à conquérir. Les unionistes, essentiellement protestants, s'ils restent attachés à la couronne britannique, se demandent s'ils n'ont pas été roulés dans la farine par Boris Johnson, leur allié de naguère, qui leur promettait que le royaume resterait uni et qui, dans l'accord avec l'UE, a acté la mise en place de contrôles douaniers en mer d'Irlande.
I will tell you something else about my job. It is to be Prime Minister of the whole United Kingdom. And that means uniting our country.
Le Brexit réveille les vieux démons irlandais. C'est un reportage de Géraldine Allot, Antoine Gignot et Benjamin Chauvin qui aurait dû être diffusé dimanche dernier et qui ne l'a pas été en raison du mouvement social que traverse Radio France.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
030-30-80-55-55. Tom Kelly, neither Fine Gael nor Fianna Fáil are pressing the case for a border poll.
Donc là, nous sommes sur la route entre Dublin et Londonderry, donc entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Il pleut des cordes, donc on va essayer de faire attention en conduisant à gauche. Et le seul signe visible que l'on change de pays, c'est que en République d'Irlande, les panneaux de vitesse sont indiqués en kilomètres heure. Et du côté de l'Irlande du Nord, on parle en miles. Nous sommes sur Fanat Drive, dans le quartier de Cregan. C'est ici qu'une jeune journaliste a été tuée en avril 2019. Elle s'appelait Lyra McKay. Elle couvrait des émeutes contre la police quand elle a été tuée d'une balle perdue. Quelques jours après sa mort, la Nouvelle IRA, qui est un groupe républicain dissident et secret, a reconnu sa responsabilité et a présenté ses excuses à la famille de la jeune femme.
C'est exactement ici qu'elle a été tuée. D'habitude, il y a toujours des fleurs qu'on dépose pour elle. Oui, c'est ici qu'elle a été abattue. La balle est partie de là-bas. C'est vraiment dégueulasse. Parce qu'on vivait en paix avant ça. depuis l'accord du Vendredi Saint, on pensait que ce genre de choses ne pouvait plus se passer, vraiment. C'est rageant de se dire que ça peut encore arriver. Pourquoi ça s'est passé? Il n'y a pas de raison à ça. C'est juste qu'il y a des voyous qui croient encore qu'ils peuvent tirer et tuer.
Il y avait des émeutes ce soir-là contre la police.
Oui, la police. Je ne sais pas pourquoi la police était là ce soir-là. Je suppose qu'ils ne sont pas les bienvenus dans cette partie de la ville. Mais je ne sais pas exactement comment les choses se sont passées. Je sais juste qu'une jeune journaliste a été tuée en faisant son travail. C'est vraiment triste de voir ça. Parce que depuis 1998, nous sommes supposés vivre en paix et loin de tout ça.
Je suis Stephen Lusty et j'étais un vieil ami de Lyra McKee. J'étais avec elle le jour de sa mort, c'était juste avant Pâques. On a pris un café, elle partait à Derry pour voir Sarah, sa compagne. Le lendemain matin, Sarah m'a appelé, Lyra avait été abattue. J'étais très choqué. J'étais avec elle quelques heures avant et soudain, elle n'était plus là.
L'enquête de police a abouti à l'arrestation de 4 personnes. Est-ce qu'on sait un petit peu ce qui s'est passé?
Pâques est toujours un moment sensible en Irlande du Nord. Une partie de notre communauté commémore l'insurrection de Pâques 1916 à Dublin. Traditionnellement, il y a des émeutes et une sorte d'hystérie nationaliste, en particulier à Derry. Donc cette nuit-là, il y avait des émeutes soutenues par des dissidents républicains. Et c'est dans ce contexte que Lyra a été tuée.
Quelques jours après la mort de Lyra McKay, la nouvelle IRA a reconnu sa responsabilité et a présenté ses excuses. Comment vous avez vécu tout ça ?
Eh bien, on assiste à un changement majeur dans la politique nord-irlandaise. Avant, les organisations paramilitaires des deux bords auraient fièrement revendiqué leur acte. Et maintenant, ces organisations sont obligées de s'excuser. Il n'y a pas d'avenir pour ces groupes qui tuent nos concitoyens en Irlande du Nord. Plus personne n'accepte ça ici.
Est-ce que la paix est en danger, selon vous ?
Je ne suis pas sûr. Le processus de paix est basé sur le développement économique. Si les gens ont des choses à faire, s'ils ont un travail et le droit de mener la vie qu'ils veulent, alors il y aura la paix. Les conflits apparaissent quand les gens vivent sous pression, et pas forcément à cause de la réapparition de petits groupes terroristes.
Sa mort a été un gros choc en Irlande du Nord. Ça a vraiment replongé la région dans des années sombres.
Oui, c'était un grand choc. On pensait que ces jours sombres étaient derrière nous. Ça nous a montré à quel point la situation était fragile.
Comment on vit aujourd'hui en Irlande du Nord?
La vie se passe très bien pour beaucoup de gens. Le secteur technologique est en plein essor. L'acceptation de l'autre dans sa diversité est de plus en plus répandue. Mais on a beaucoup de laissés-pour-compte et c'est pour ça qu'il faut continuer d'investir dans notre tissu social.
Nous sommes maintenant dans la partie fortifiée de Londonderry. Derry pour les Républicains. Donc c'est ici le cœur historique de la ville. Et nous avons rendez-vous au Nerve Center, c'est une association culturelle.
Mon nom est Martin Mellarkey. Je vis et travaille ici à Derry, au Nerve Center. C'est un centre dédié au numérique où les gens apprennent de nouvelles compétences comme filmer, jouer de la musique. Notre mission, c'est de créer des contenus numériques.
Qu'est-ce que vous avez ressenti l'an dernier quand Lyra McKay a été tuée d'une balle perdue par la nouvelle IRA?
Comme tout le monde dans la ville, nous étions très choqués. Parce qu'à Derry, nous avions réalisé de gros progrès en matière de paix, en matière de réconciliation entre communautés. Il y avait beaucoup d'espoir à Derry. Même les dissidents se réjouissaient qu'ils soient catholiques ou protestants. D'ailleurs, entre parenthèses, les deux communautés ont voté pour rester dans l'Union européenne. Donc ce qui s'est passé nous a ramené presque 50 ans en arrière. C'est vraiment un cauchemar. Les circonstances de la mort de cette jeune femme étaient vraiment brutales. Et c'est l'un des épisodes les plus tragiques de l'histoire de Derry.
Est-ce que le Brexit ne vient pas un peu rajouter de l'huile sur le feu ? Parce que d'un côté, les unionistes sont très attachés au Royaume-Uni et les républicains, finalement, rêvent toujours d'une Irlande réunifiée.
Oui, certainement que l'une des parties se sent trahie. Mais dans le contexte de Derry, tant qu'une frontière physique n'est pas rétablie, avec des checkpoints et des droits de douane, ce qui s'est passé l'an dernier ne pourra pas se reproduire. Derry n'est pas plus violente que Belfast, que des villes où les loyalistes sont majoritaires. Derry est une ville à majorité nationaliste et républicaine. Le danger est là quand l'une des communautés se sent lésée. Et c'est vrai qu'avec l'accord du Vendredi Saint, tout le monde y trouvait son compte. Avec le Brexit, on a l'impression que si une communauté obtient quelque chose, l'autre perd quelque chose. Et c'est pour cela que le risque de violence existe toujours.
Comment vous envisagez le Brexit ? Quelles conséquences il pourrait avoir ici, qui est une terre qui a beaucoup souffert dans le passé, lors de la lutte entre les républicains et les unionistes ?
Il y a beaucoup d'appréhension ici, car nous sommes tout près de la frontière et du comté irlandais du Donegal. Moi-même, je vis dans le Donegal et je traverse la frontière tous les jours. Je me fais beaucoup de soucis depuis 2 ans. Mais grâce au dernier accord conclu avec l'Union européenne, nous pensons qu'il n'y aura pas de frontière physique.
La nouvelle armée républicaine irlandaise a reconnu sa responsabilité dans la mort de Lyra McKee. Ce groupuscule d'une centaine de personnes, né en 2012 de la fusion entre plusieurs organisations paramilitaires, ne reconnaît pas l'accord de paix et a revendiqué récemment l'explosion d'une voiture piégée et les meurtres de 2 gardiens de prison. La vitrine politique de cette nouvelle IRA est le parti SIRU, Liberté en gaélique. Nous sommes maintenant dans le centre de Derry, au quartier général de ce parti, avec Antoine Gignot. L'envoyé spécial permanent de Radio France à Londres est l'un des rares journalistes à qui les membres de SIRU accordent des entretiens.
À l'intérieur du local, des affiches pour dénoncer les violences policières, des drapeaux irlandais, des armes automatiques, des uniformes accrochés au mur et de la musique, des balades pour célébrer l'unité de l'Irlande. C'est justement la musique qui attire beaucoup de jeunes ici.
Mon nom est Joe McCurray, j'ai 22 ans, je suis originaire de Derry.
Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre ce parti ?
Je suis né juste après ce qu'on appelle l'accord de paix. J'ai toujours été intéressé par l'histoire, particulièrement l'histoire de l'Irlande. Depuis que je suis tout petit, j'adore la musique. Et pour moi, la musique raconte l'histoire de notre lutte. J'ai lu des livres sur l'histoire de l'Irlande, sur la partition, sur le gouvernement britannique qui nous occupe, qui nous oppresse, sur son impérialisme qui affecte les Irlandais. Je me suis intéressé aux jeunes comme moi qui souffrent économiquement et socialement. Ils sont discriminés, ils n'ont pas de ressources, personne ne prend soin d'eux dans ce soi-disant gouvernement. Avec tout ce bagage historique et musical, il fallait que je réagisse. Et l'usage des armes est inévitable dans une situation d'occupation. Regardez les autres territoires colonisés ailleurs dans le monde. Ils n'ont jamais obtenu la liberté sans avoir eu recours à la lutte armée.
Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui, vous, de ce combat-là ? Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent « mais il y a un danger d'escalade, il y a un danger que la guerre revienne ?» sur le sol irlandais.
J'adorerais vous faire une analyse sur l'usage des armes en politique, mais je serais censuré par ce qu'on appelle la législation sur le terrorisme. Mais comme je vous l'ai dit, quand une terre est occupée, il y a une résistance armée. C'est un fait.
Est-ce que vous pensez qu'il y a de plus en plus de gens et de jeunes qui sont impliqués à cause de ce qui s'est passé ces dernières années et à cause du Brexit ?
Le quartier de Cregan et les autres quartiers périphériques de Derry font partie des endroits les plus défavorisés en Europe. Il n'y a pas d'emploi. Le niveau d'éducation est très bas. Le Brexit remet sur la table le sujet de la réunification de l'Irlande. La présence britannique en Irlande revient dans les conversations. Et la peur d'une frontière physique, la peur d'un Brexit dur, la peur de revoir des soldats britanniques dans nos villes, tout cela, les gens l'ont bien en tête. Ils se rappellent que la lutte est toujours en cours, la lutte pour la liberté existait avant le Brexit, elle va exister pendant le Brexit et elle existera après le Brexit.
Je m'appelle Paddy Gallagher, je suis chargé des relations publiques chez CIRU, un parti de gauche républicain basé en Irlande.
Qu'est-ce que vous attendez de ce Brexit qui est programmé pour la fin du mois de janvier ?
Eh bien, on n'en attend pas grand-chose. Le dernier accord de retrait rend très probable une frontière en mer d'Irlande et non pas une frontière physique sur l'île d'Irlande. Mais l'Irlande reste sous occupation britannique.
Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Est-ce que ce Brexit peut, quelque part, aider à réunifier l'Irlande ?
Les difficultés que rencontrent les Britanniques sont une opportunité pour l'Irlande et ses habitants. Et c'est vrai que le Brexit sera utilisé par le peuple irlandais pour pousser dans le sens d'une réunification de l'Irlande.
Comment est-ce que vous regardez, vous, aujourd'hui, l'attentat à la bombe qui a eu lieu devant le palais de justice de Derry l'année dernière ? Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent de soutenir le combat armé ?
Je comprends très bien pourquoi l'IRA continue la lutte armée.
They clearly see it as
pour eux, c'est une nécessité.
Cregan and all our working class areas of Derry.
Cregan et les autres quartiers ouvriers de Derry et d'Irlande du Nord souffrent énormément.
The so-called peace process,
le soi-disant processus de paix, ne les a pas délivrés de la pauvreté.
People often speak of a peace process.
Les gens parlent de processus de paix. Je n'utiliserai pas ce terme. Je parlerai plutôt de processus d'appauvrissement. Nous manquons de travail, nous manquons d'éducation. Ces problèmes pourraient être résolus par la fin de l'occupation britannique.
Il y a toujours ce discours des deux côtés des communautés de dire on a eu près de 3500 morts, il faut que ça s'arrête, la violence n'a plus de place. Pour vous, la violence, elle est toujours là ?
Où est cette paix dont ils parlent ? Tout ce que l'on voit, c'est de la violence d'État de la part des Britanniques. Et je peux comprendre pourquoi des personnes de la communauté républicaine continuent de s'engager dans la résistance armée. C'est le droit des Irlandais de faire ça. Et ils vont continuer à le faire.
Alors pour mesurer un peu la dangerosité de cette nouvelle IRA, nous allons faire un détour par Dublin en République d'Irlande et nous allons rencontrer Anthony McIntyre. C'est un ancien prisonnier donc de l'armée républicaine irlandaise. Il a passé 18 ans en prison pour le meurtre d'un paramilitaire loyaliste en 1976 et c'est aujourd'hui un écrivain et un historien respecté. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la nouvelle IRA est en mesure de mener d'autres actions violentes ?
Non, je ne pense pas qu'ils en aient la capacité. La nouvelle IRA est infiltrée par l'État britannique. Les opérations qu'elle a menées n'ont pas été bénéfiques pour les républicains. La nouvelle IRA est incompétente. C'est la section la plus incompétente dans l'histoire de l'IRA. Ce sont des incapables. Ce n'est pas de la lutte armée. Ce sont des gens qui cherchent des gratifications personnelles. Ils empruntent le chemin de la violence contre la vie d'une majorité de la population. C'est complètement contre-productif. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais s'ils sont une centaine dans ce groupe, seuls 10 doivent être capables de mener des opérations. Les autres sont des parasites. La nouvelle IRA est une bande incontrôlable.
Quel profil ont ses membres ?
Ils essaient de montrer un profil de groupe armé sérieux, mais ils ne sont pas perçus comme cela. Il y a des anciens de l'IRA qui se sont engagés dans la nouvelle IRA. Mais encore une fois, on peut s'interroger sur leur sagesse politique. Ils n'ont aucune stratégie. Ils aiment se comparer à Bobby Sands. Mais Bobby Sands était un prisonnier politique. Ses aspirations étaient politiques. Son ascension était politique. La nouvelle IRA n'est pas motivée par la politique, en aucune façon. C'est une pâle imitation de l'IRA.
La procession se dirige ensuite vers le cimetière voisin, où sont enterrés les martyrs de l'IRA et parmi eux, depuis quelques jours, Bobby Sands. Presque tous portent le drapeau noir, le drapeau de l'IRA.
Depuis la partition de l'Irlande en 1921, Belfast est la capitale des 6 comtés d'Irlande du Nord. La ville est physiquement marquée par ce conflit entre unionistes et républicains qui a fait 3500 morts entre les années 60 et 90. À tel point que les quartiers sont séparés les uns des autres par des murs. Il en existe plusieurs dizaines dont les portes permettant de les franchir ne sont ouvertes qu'à des horaires déterminés. C'est dans cette ville balafrée que nous retrouvons Géraldine Allot.
Interception sur France Inter.
Nous nous trouvons juste en face du mur de la paix qui sépare le quartier unioniste de Shankill Road du quartier républicain de False Road. C'est un mur qui fait 7-8 mètres de haut, en grillage et en béton, avec de grandes fresques dessus, plutôt à la gloire des républicains. Il y en a plusieurs, des murs comme ça, dans Belfast. Historiquement, ils ont été construits pour séparer les communautés et ils sont maintenant voués à disparaître, en tout cas normalement. Nous avons rendez-vous chez Trademark Belfast. Alors, contrairement à ce que son nom veut bien laisser croire, ça n'a rien à voir avec une organisation de commerce. C'est une entité liée au syndicat qui promeut le dialogue et la réconciliation entre les communautés.
Ok.
Je m'appelle Stevie Nolan, je travaille chez Trademark depuis 20 ans. Je suis l'un des membres fondateurs de l'organisation.
Comment vous vivez ici? Est-ce que de temps en temps vous allez dans le quartier unioniste qui est juste là à Shankill Road ou est-ce que vous restez dans votre quartier républicain?
C'est différent dans notre organisation parce qu'on se consacre à la réconciliation entre les communautés depuis 20 ans, donc on peut aller partout. Mais la plupart des gens ici restent dans leur secteur. 90% de Belfast, ce sont des quartiers séparés. On va dans des écoles différentes, on pratique des sports différents, on va dans des pubs différents, on ne regarde pas les mêmes sports à la télévision. Il y a 2 nationalités ici et personne ne peut dire le contraire. Même si les gens utilisent le sobriquet nord-irlandais pour ne pas dire irlandais ou britannique, quand vous leur demandez ce que ça veut dire, leur réponse est irlandais ou britannique. Donc oui, c'est une société profondément divisée. Le seul endroit où les communautés sont le moins séparées, ce sont les lieux de travail. Il y a moins de tension, même s'il y en a encore. Mais dans le reste de la société, c'est comme si 2 pays vivaient dans un seul pays. On parle d'apartheid bienveillant ou d'apartheid apaisé.
On approche du Brexit. Est-ce que vous avez peur de ce qui peut se passer?
Les difficultés sont vraiment spécifiques à l'Irlande du Nord, car nous avons certes une frontière avec la République d'Irlande. Mais si le départ du Royaume-Uni de l'UE signifiait le retour d'une frontière physique avec l'Irlande, ça saperait l'accord de paix et ça ferait ressurgir les tensions en Irlande du Nord. Moi-même, je résisterai, je protesterai, parce que j'ai de la famille des 2 côtés de la frontière. Donc le fait qu'il n'y ait pas de frontières physiques, pour le moment, est essentiel au processus de paix. L'accord de retrait signé par Boris Johnson place la frontière en mer d'Irlande. Donc ça crée une frontière dure entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Pour les républicains, dont je fais partie, c'est une bonne chose, parce que ça affaiblit nos liens avec le Royaume-Uni. Mais pour les unionistes, c'est une catastrophe, parce que justement, ça affaiblit cette relation. Il n'y a à peu près aucun doute que l'Irlande du Nord va rester dans l'union douanière et le marché unique européen. Ce qui veut dire qu'une réunification d'Irlande se précise. C'est le grand débat du moment en Irlande du Nord.
Pour vous, donc, c'est une opportunité de pousser le processus de réunification.
On a toujours pensé que le Brexit était une opportunité de perturber le Royaume-Uni. En tant que républicain, ça m'arrange. La création de l'Irlande du Nord était une erreur. Ce n'est plus viable politiquement, socialement, culturellement et économiquement. Il va bien falloir modifier la Constitution. Ce ne sera peut-être pas une Irlande avec 32 comtés, mais c'est sûr notre pays va changer.
Vous pensez que de votre vivant, vous allez voir une Irlande réunie ?
Je vous aurais dit non il y a 5 ans,
mais le Brexit a accéléré cette possibilité.
En
tant que socialiste, je suis plus préoccupé par l'état de notre planète en ce moment que par cette frontière, mais je suis sûr qu'on va trouver un arrangement constitutionnel.
Les traces du conflit sont omniprésentes à Belfast. On l'a vu, il y a les murs qui se dressent encore un peu partout dans la ville. Il y a les fresques à la gloire des républicains ou à la gloire du Royaume-Uni. Et de plus en plus de touristes viennent voir ces stigmates du passé. Nous allons suivre un tour opérateur qui s'appelle Coist et qui organise ce qu'il appelle des tours politiques, c'est-à-dire des visites de la ville, en compagnie d'anciens prisonniers de l'IRA qui font office de guide.
Je m'appelle Robert et je regrette, mais je ne parle pas bien français.
Vous parlez très bien français. Très, très bien. Yeah.
Okay, my name is Robert.
Mon nom est Robert.
Robert McClanahan. I was 62 on the 2nd.
J'ai eu 62 ans début janvier.
I was arrested.
J'ai été arrêté en 1976. J'avais 18 ans. J'ai été condamné à 20 ans de prison pour appartenance à l'IRA. Pour possession d'armes. Pour possession d'explosifs. Et pour avoir provoqué une explosion dans le centre-ville de Belfast. J'ai passé 12 ans en prison avant d'être libéré sur parole. Mais pour moi, ces 12 années passées en prison, c'était comme étudier à la Sorbonne. Parce que j'ai eu le temps de penser, de lire, d'étudier et de discuter. Imaginez la prison, les H-blocks à Longcash. Nous étions 300 républicains irlandais dans la même prison au même moment. Nous parlions de la politique et de l'histoire irlandaise pendant 12 ans. C'est comme ça que j'ai fait mon éducation. Et quand je suis sorti de prison, j'ai réalisé qu'il fallait que je sois actif dans la communauté. Et c'est pour ça que nous sommes dans ce bureau aujourd'hui. C'est l'association des habitants de Falls Road. Et je suis aussi un membre du Sinn Féin, qui est le parti politique des Républicains.
C'est en prison que vous avez décidé de renoncer à la violence ?
Ce n'est pas si simple. Je ne suis pas un pacifiste. J'ai toujours cru que le peuple irlandais avait le droit d'utiliser les armes pour en finir avec l'occupation britannique. Mais dans les années 80, une alternative politique à la campagne militaire de l'IRA a émergé. C'est pour ça que j'ai décidé de devenir membre du Sinn Féin. Quand j'ai été libéré de prison, ma première action a été de rejoindre ce parti.
Pourquoi vous avez choisi, Robert, d'être guide pour faire ces tours avec les touristes ?
Les touristes nous offrent l'occasion d'expliquer la politique irlandaise du point de vue des républicains. Donc pendant cette visite de la ville, nous passons la moitié du temps dans le quartier de Falls et la moitié du temps dans le quartier de Shankill, qui est le secteur protestant et unioniste. Les touristes ont donc une vision complète du conflit et ils peuvent se faire leur propre opinion.
On peut vous suivre ?
Donc vous pouvez voir les barrières le long de la route. Elles séparent les deux communautés. Elles n'existaient pas il y a 50 ans. Ici, c'est le quartier catholique de Falls Road. Et de l'autre côté, ce sont les protestants de Shankill Road.
Ce qui est étonnant, c'est que 20 ans après l'accord de paix, on a encore ces grands murs et ces... qui séparent en fait les quartiers.
Parce que les gens... Bonjour. Les gens ont toujours peur. Surtout les anciennes générations qui ont vécu le conflit. Les jeunes sont plus ouverts. Ils sont d'accord pour démolir les portes et les murs. Mais leurs aînés ont toujours peur. Donc il y a des portes et des murs. Et les portes ouvrent chaque matin à 6h30 et se ferment le soir à 18h30. Nous essayons de les laisser ouverts plus longtemps, jusqu'à 19h30 ou 20h30. C'est le projet de notre association. Un petit pas pour améliorer la situation. Regardez-là, vous avez un centre de fitness pour les catholiques. Si vous passez la porte et prenez la route à droite, à environ 200 mètres, il y a un autre centre de fitness pour les protestants. Donc vous pouvez passer votre vie entière d'un seul côté du mur, sans parler à personne de l'autre côté.
Nous sommes là dans le quartier unioniste, donc pro-britannique de Shankill Road. On va essayer d'aller parler avec les habitants.
David.
Vous vivez ici à Shankill Road?
Oui, depuis 75 ans.
Le Brexit approche. Est-ce que vous avez des craintes particulières?
Non, on peut toujours craindre le pire. Mais personne ne devrait nous dire ce qu'on doit faire. Il y a des gens en France ou en Allemagne qui voudraient nous dicter notre conduite, mais moi je leur dis non.
Et qu'est-ce que vous pensez de l'accord qui a été signé entre Boris Johnson et l'Union européenne? Il y aura des contrôles en mer d'Irlande. Est-ce que ça vous pose problème?
Laissez-moi vous dire les choses. Je ne souhaite du mal à personne, mais ces personnes-là, elles ne font que pousser pour me faire partir de mon pays. Moi, je leur dis non, j'en ai assez.
Mais vous avez peur d'être coupé du reste de la Grande-Bretagne?
Ah oui, définitivement. Vous n'avez qu'à vous promener dans les 6 comtés d'Irlande du Nord et vous verrez qu'ils repoussent les protestants de plus en plus loin. Donc, j'en déduis qu'il n'y a plus de place pour moi.
Est-ce que vous pensez que Boris Johnson a abandonné les Nord-Irlandais?
Je ne lui fais plus confiance. Aucun homme politique ne nous dit la vérité. Il nous disait qu'il n'y aurait jamais de frontière en mer d'Irlande. Mais finalement, il s'en fiche, tout simplement. Il disait que le Royaume-Uni était uni et le resterait. Toute ma famille a combattu pour le Royaume-Uni. J'ai servi dans l'armée britannique. J'ai fait 4 ans. En 1964, j'étais à Bornéo. Mon frère a combattu en Corée. Mon père était dans l'armée pendant la Première Guerre mondiale. Mes 2 frères sont morts pour le Royaume-Uni. Donc oui, on est britannique comme n'importe qui à Londres. Les Anglais pensent parfois que l'Angleterre, c'est le Royaume-Uni. Ils oublient le Pays de Galles, l'île de Man, l'île de Wight, l'Écosse. C'est grâce à toutes ces régions que le Royaume-Uni est ce qu'il est. Et on sera toujours là. Vous ne trouverez personne dans cette rue pour vous dire le contraire.
Comme les républicains catholiques, les unionistes protestants ont aussi leur jusqu'au boutiste. On les trouve à l'UVF, la Force des volontaires pour l'Ulster, dont l'objectif est de lutter contre l'IRA et de maintenir la province dans le Royaume-Uni. Elle a un porte-parole officieux, Jamie Bryson, 30 ans, éditeur d'une newsletter et condamné par la justice britannique pour avoir affirmé que l'UVF n'est pas une organisation terroriste. C'est avec ce sulfureux personnage que Géraldine Allot a rendez-vous.
Interception sur France Inter.
Nous sommes sur la rue principale de Shankill Road, donc le quartier loyaliste de Belfast. Sur les murs d'une maison, il y a des portraits géants de la reine d'Angleterre, il y a un bar qui s'appelle le Royal Bar. En fait, tout ici fait référence à la couronne britannique et à l'appartenance de l'Irlande du Nord au Royaume-Uni. Hi, hello.
Hello, hiya.
You're Jamie?
Yes, I'm Jimmy, yes.
We can sit here?
Yes, that's fine, yeah.
Oh. Vous êtes proche des paramilitaires loyalistes. Comment est-ce qu'ils réagissent à cette frontière annoncée en mer d'Irlande ?
Beaucoup d'entre eux pensent que les républicains ont brandi la menace du retour des violences en cas de frontière physique pour obtenir ce qu'ils voulaient. Donc les loyalistes se disent maintenant, regardons ce qui se passe. Nous pourrions, nous aussi, faire du chantage pour éviter la frontière en mer d'Irlande. Nous serons attentifs à ce qui peut se passer dans les prochaines semaines, pendant la période de transition. Nous verrons si Boris Johnson accepte des changements. Nous sommes résolument opposés à cet accord tel qu'il est aujourd'hui. Il n'est pas acceptable.
Il peut y avoir des répliques violentes de la part de ces groupes paramilitaires.
C'est possible, oui. Personne ne peut prédire le futur. Je pense que personne ne veut assister au retour des violences, mais oui, ça peut arriver.
Comment ça se passe en ce moment ? Il y a des réunions, il y a des gens qui se fournissent en armes ?
Personne ne suggère cela à l'heure qu'il est, mais je ne peux pas prédire le futur, je ne sais pas. Je ne vais pas le souhaiter publiquement, sinon je tombe sous le coup de la loi. Je vous le redis, je ne peux pas prédire le futur.
Yes, good morning, it's France Inter.
Je m'appelle Peter Sheridan. Je suis responsable de l'association Cooperation Ireland.
On va revenir un petit peu sur votre histoire. Vous étiez policier à Derry pendant le conflit, un policier catholique, ce qui est rare. Vous avez ensuite servi pendant 20 ans dans la section antiterroriste de Belfast. Il y a quelques années, vous êtes venu ici et vous dirigez maintenant l'association de promotion de la paix Cooperation Ireland. C'est un parcours plutôt étonnant.
Oui, ce n'est pas très répandu comme parcours. Tout ce que j'ai fait en tant que catholique était à contre-courant. Ma femme fait partie de l'église anglicane. J'ai rejoint la police alors que seulement 5% des policiers à cette époque étaient catholiques. Donc, pour beaucoup de personnes, j'empruntais le mauvais chemin. Mais pour moi, c'était le bon.
Vous avez dirigé pendant 20 ans l'unité antiterroriste de Belfast, donc vous connaissez bien les groupes paramilitaires. Est-ce qu'aujourd'hui, les groupes paramilitaires, qu'ils soient républicains ou unionistes, sont toujours aussi dangereux ? Est-ce qu'ils sont une menace pour la paix ?
Oui, certains groupes paramilitaires sont toujours actifs. Je me demande souvent pourquoi les paramilitaires loyalistes existent encore alors qu'ils se sont créés pour s'opposer à l'IRA et qu'aujourd'hui, l'IRA a cessé sa campagne militaire. Donc, pourquoi les groupes paramilitaires opèrent toujours aujourd'hui ? Pourquoi avons-nous toujours l'UDA et l'UVF ? Ces groupes illégaux, bien sûr qu'ils sont dangereux. Ils sont impliqués dans le crime organisé, dans le trafic d'êtres humains, dans le trafic de drogue, et dans le racket et le chantage dans leur propre communauté. Donc oui, ils sont dangereux. Tout comme les dissidents républicains qui voient la violence comme un mal nécessaire, malgré les leçons de ces 35 dernières années. Mettre un pistolet sur la tempe pour obtenir ce qu'on veut, tirer sur quelqu'un pour réunifier l'Irlande, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché hier, ça ne marchera pas demain. Mais avec de la persuasion et du dialogue, on peut obtenir ce qu'on veut.
Est-ce que c'est le Brexit qui crée ces tensions ou est-ce qu'il est là et il met un petit peu de l'huile sur le feu ?
Il s'est rajouté aux tensions existantes. Il y a des gens qui vivent en Irlande du Nord qui se sentent britanniques. Leur identité culturelle est liée au Royaume-Uni. Ce qui se passe à Buckingham Palace est important pour eux. Et il y a d'autres personnes qui se définissent comme irlandais. Leur identité culturelle est irlandaise. Ils pratiquent des sports irlandais, comme le football gaélique. Ils regardent la télévision irlandaise. L'accord de paix du Vendredi Saint donne le droit aux Nord-Irlandais de choisir leur identité. Vous pouvez choisir d'être britannique ou irlandais ou les deux à la fois. J'ai moi-même les deux passeports, le britannique et l'irlandais. Mais dès que vous essayez de mettre une frontière sur l'île d'Irlande ou en mer d'Irlande, vous créez un point de déséquilibre. Et c'est pour cela qu'il y a ces nouvelles tensions.
We can go upstairs and get a room down here.
Duncan Moreau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université d'Ulster,
oui.
Ici à Belfast, et vous êtes spécialiste du conflit nord-irlandais.
Oui.
Le Brexit pousse les Républicains à demander, ou en tout cas à penser à nouveau, à une réunification de l'Irlande. Est-ce que cela vous semble viable d'un point de vue économique ?
L'économie nord-irlandaise a beaucoup souffert ces 50 dernières années. Nous sommes un peu le maillon faible dans l'économie du Royaume-Uni. Dans le même temps, l'économie de la République d'Irlande s'est transformée. Elle est devenue très dynamique, c'est une économie ouverte vers l'international à travers l'Union européenne. Donc les choses ont beaucoup changé ces 50 dernières années. Auparavant, l'Irlande du Nord était riche, le reste de l'Irlande était pauvre. Aujourd'hui, c'est le contraire. Actuellement, le Royaume-Uni subventionne l'Irlande du Nord à hauteur de 10 milliards de livres par an. Ça fait beaucoup d'argent. Le plus gros problème, en fait, dans cette volonté de réunification, ce n'est pas d'avoir l'accord du Nord, mais c'est d'avoir celui du Sud. Et peut-être que l'économie sera l'argument principal pour que la République d'Irlande dise « Non, nous ne voulons pas de la réunification. C'est trop compliqué, ça coûte trop cher et ce n'est pas viable. » Le problème avec la réunification, un peu comme avec le Brexit, c'est que l'idée est séduisante, mais elle est très difficile à mettre en œuvre.
Les Républicains vont devenir majoritaires en Irlande du Nord bientôt. Est-ce que cela va accélérer un petit peu les choses ?
Les Nord-Irlandais avec des racines catholiques et républicaines seront en majorité d'ici 10 ans. Mais la politique nord-irlandaise de ces 3 dernières années a montré une réalité légèrement différente. Le courant unioniste n'est plus majoritaire. Quand vous regardez les résultats des dernières élections en décembre, les unionistes ont remporté 42% des suffrages, ce qui n'est pas une majorité. Les nationalistes, c'est-à-dire les républicains et tous ceux qui militent pour la réunification de l'Irlande, ont récolté 39% des voix. Donc aucun des camps n'a la majorité. La question n'est pas de savoir ce qui se passe du côté des nationalistes républicains, mais plutôt du côté des électeurs du centre. Parce que ces électeurs du centre, depuis le Brexit, préfèrent plutôt regarder du côté de l'Irlande.
Nous terminons ce reportage dans la station balnéaire de Newcastle, au bord de la mer, à 1 heure au sud de Belfast. À ne pas confondre avec la ville de Newcastle, en Angleterre. Nous allons rencontrer un autre ancien prisonnier de l'armée républicaine irlandaise. Il s'appelle Lawrence McKeown. Il a passé 16 ans derrière les barreaux pour tentative de meurtre sur un policier. En prison, il s'est lancé dans une grève de la faim comme Bobby Sands. Il a été libéré en 1992. Aujourd'hui, c'est un intellectuel et un écrivain réputé. Lawrence McKeown, vous avez combattu dans les rangs de l'IRA pour obtenir la réunification de l'Irlande. 45 ans plus tard, c'est peut-être grâce au Brexit que vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Et c'est toute l'ironie de l'histoire.
Oui, c'est vraiment ironique que l'on reparle de ce problème de la partition de l'Irlande à cause du Brexit. La logique, si on suit les grands partisans du Brexit, serait de se débarrasser aussi de l'Irlande du Nord. Parce que les Brexiteurs, à la base, se plaignent de l'argent que le gouvernement donne à l'Union européenne. Donc, d'ici peu de temps, ils vont s'interroger sur le montant des subventions que le Royaume-Uni donne à l'Irlande du Nord.
Est-ce que vous pensez que Boris Johnson est prêt à lâcher l'Irlande du Nord ?
Beaucoup pensent que depuis longtemps, le Royaume-Uni a effectivement cette position, mais qu'il est contraint par l'histoire et par l'accord du Vendredi Saint qui maintient le statu quo en Irlande du Nord. Sauf si une majorité vote le contraire. Je pense que l'on se dirige rapidement vers cette majorité-là.
Les derniers sondages qui ont été menés montrent qu'une petite majorité de 52-53% des Nord-Irlandais sont en faveur d'une réunification de l'Irlande. Beaucoup de gens dans le Nord, notamment les agriculteurs, ont des intérêts économiques en République d'Irlande.
Une question que l'on pose à tous nos interlocuteurs chez les Républicains, est-ce que vous pensez que de votre vivant, vous verrez une Irlande réunie ?
Cela dépend de combien de temps je vis. Je suis moins soucieux d'assister à la réunification de l'Irlande de mon vivant que je l'étais quand j'avais 17 ans et que je rejoignais l'IRA. Mais oui, entre le poids démographique des Républicains et le Brexit, si je vis encore 10 ou 20 ans, je verrai une Irlande unie. Should have voted stay, it is too late. Yes, you should have voted stay, it is too late. Neil Poir!
Brexit réveille les vieux démons irlandais. C'était un reportage de Géraldine Allo et Antoine Gignot avec Benjamin Chauvin à la prise de son, réécoutable immédiatement sur franceinter.fr. Réalisation Violaine Ballet, assistée de Martine Messonnier. Mixage Bruno Mourlan. La semaine prochaine, plongée dans le monde des collapsologues.
Noé n'aurait jamais pu construire son arche sous l'eau. Et le fait est qu'aujourd'hui, on arrive à des limites. Et il faudrait maintenant transformer toute la société pour qu'elle devienne résiliente.
Mathieu Mondoloni a rencontré quelques-uns de ceux, de plus en plus nombreux, qui pensent que les jours de notre civilisation industrielle sont comptés et qu'il faut donc s'adapter rapidement à de profonds changements. Dans quelques instants, vous retrouverez Eva Bester pour Remède à la mélancolie.